Bienvenue dans cette quatrième émission de Radio Conservatoire, cette émission qui donne la parole aux élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique pour faire entendre leur point de vue, analyse sur des spectacles toujours très différents d'une émission à une autre. Les élèves critiques de cette nouvelle émission de Radio Conservatoire sont May Hiller, Andrea Elazan, Aurélien Feng, Hugo Kuchel et Camille Constantin. Pour cette quatrième émission, nous avons choisi de parler de Grande, spectacle co-signé par Tsiriaka Arrivel et Vima Laponce, créé au 104 à Paris. Longue tournée, Grande a fait escale au Montfort à Paris, avant de poursuivre sa route à Strasbourg, Annecy, Lyon, d'autres dates sans doute la saison prochaine. On connaît bien l'élément féminin du binôme, pour avoir régulièrement vu au cinéma Vima Laponce, mais tous les deux s'étaient rencontrés déjà et fait remarquer au sein du collectif Yvan Mosjoukine, avec qui ils avaient créé De nos jours, Notes on the Circus, très belle surprise de la saison 2012. Vima Laponce a une pratique en art plastique, elle a fait le CNSAD, elle est aussi un an au Centre National des Arts du Cirque. Tsiriaka Arrivel a lui une formation de musicien et une formation aux arts du cirque. Pour la clarté des débats et de cette émission, nous avons, comme à l'habitude, défini ensemble les points que nous allions aborder. On va commencer par un premier tour de table pour vous interroger sur la question ô combien importante concernant Grande de la forme. Sur le programme de Grande, il est écrit « Musical Cirque ». Il me paraît un peu réducteur, même si ça n'est pas faux. Première approche de la forme, c'est peut-être aussi ce que la spectatrice ou le spectateur voit en entrant dans la salle. Est-ce que vous pouvez replonger dans ce moment, nous dire ce que vous avez ressenti? Alors je commence avec celui qui n'avait pas encore vu ce spectacle Grande quand nous avons fait notre séance de préparation de l'émission, Aurélien Feng. Donc on va avoir tous et toute la surprise de vos sensations, émotions. Qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans la salle?
On entre un peu dans le laboratoire de Vima Laponce et Tsiriaka Arrivel. Parce que dès qu'on rentre dans la salle, il y a des affiches avec des lettres, des dates, il y a des poèmes, des modèles d'écriture, des cartes de territoire de l'intime pour la création, des partitions de souffle. Et on nous donne une cartographie qui est un peu comme l'emploi du temps du spectacle qu'on nous distribue au début. Donc on se retrouve un peu comme... Ouais, on a l'impression d'être dans le laboratoire de Vima Laponce et de Tsiriaka Arrivel. Tout est à vue, tous les objets qu'ils vont utiliser pendant le spectacle, les effets de lumière qu'ils vont utiliser. Et même à la sortie du spectacle, ils vendent la culotte de Vima Laponce.
La culotte de Vima Laponce. Il y a aussi une cassette du spectacle de la bande-son. Ce n'est pas tout à fait le même usage. Andrea Elazan, est-ce que vous pouvez parler de la carte que moi, je n'ai pas eue? Parce que ça n'était pas au 104 ou je ne l'ai pas eue ce soir. La carte qui est posée sur chacun des fauteuils de théâtre.
Oui, alors moi, la carte, je l'ai ouverte une fois, je l'ai refermée parce que je n'avais pas compris.
Mais ça ressemble à quoi d'abord?
Comme un dessin d'enfant ou quelque chose que je pourrais faire dans mon carnet pour me distraire, mais je sais pas comment dire.
Avec des espaces,
des mots, mais en fait je regardais surtout la scène à ce moment-là parce que je voulais voir les détails de la scène et non pas les détails écrits du papier. Mais c'est après que je suis retournée au papier, mais plus tard, 3 jours après. Donc non, ouais, la carte, elle m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai aimé, mais parce que ça justifiait pourquoi c'était complètement le bazar sur scène aussi. Et on se demande, ils vont aller où avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter?
Alors on se le demande plus ou moins selon qu'on connaît aussi les travaux précédents. Camille Constantin, c'était votre cas, vous aviez vu le spectacle du collectif Yvan Mosjoukine, donc du coup vous avez peut-être une attente particulière. On parlera de vos impressions sur le spectacle, mais quand vous êtes arrivé, vous avez vu comment vous avez dit, ce bazar, Andrea, non,
c'est un peu Aurélien,
le bazar. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Camille, devant cet espace de jeu?
J'avais envie de tout voir et de rien louper. C'était un décor assez chargé. La lumière était plutôt froide, comme une lumière de service. Et donc, il y a un côté très ludique parce que j'avais envie de tout capter et de me dire quel objet ils vont utiliser et de me souvenir de tout. Donc, il y a comme un challenge en arrivant face au décor.
Mais Hilaire, vous avez bien aimé, et pas seulement au début, que tout soit à vue. Vous en parliez aussi dans la préparation de cette émission.
Oui, moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y a tous les objets à vue. Et je trouvais même qu'au fur et à mesure du spectacle, vu qu'il y avait ce bazar, on n'arrivait même plus à identifier ce qu'ils allaient utiliser. Parce qu'il y avait tellement de choses, et c'était hyper agréable du coup d'avoir, même quand c'était devant nous, on ne savait pas ce qu'ils allaient utiliser. Et j'ai beaucoup apprécié.
Andrea ?
Enfin, pour ajouter, j'avais l'impression que c'était un grand terrain de jeu. Et on voulait jouer avec tout.
Et le jeu commence. Hugo, Cuchel, alors peut-être pour avancer dans l'entrée du spectacle, il y a une question qu'on a évoquée lorsqu'on a préparé cette émission, c'est la question de la nudité des interprètes. Alors à des moments différents, mais ça commence par un très long striptease et ça commence par la fin, on l'évoquera. C'est aussi lié à la question de la forme, mais peut-être un tour de table sur cette question de la nudité. Hugo, Cuchel, comment est-ce que vous avez reçu la nudité d'abord de Vima Laponce, puis un peu plus tard celle de Thierry Acarivel?
Ben, plutôt très bien. Et c'est, enfin, genre, c'est plutôt très bien déjà. Bon, voilà. Mais parce qu'en général, c'est pas quelque chose qui moi me transcende la nudité comme ça sur scène. Mais là, je trouvais que c'était très bien amené parce qu'on avait cette Vima Laponce avec un mannequin en équilibre sur la tête et elle se retirait des couches et des couches et des couches et encore des couches jusqu'à n'en plus finir.
De vêtements.
De vêtements qui représentaient, je ne sais pas, moi ça m'a fait penser à tous les habits qu'on pouvait mettre sur la peau, tout, il y avait des habits de bonne sœur, ce genre de choses-là. Et moi, ça m'a vraiment abasourdi parce qu'on est allé d'un truc genre de plein d'habits jusqu'à quelque chose de vraiment nu. C'est la femme telle qu'elle est sur le plateau, plus tard l'homme tel qu'il est sur le plateau, enfin originel quoi. On vire toutes ces saloperies de société, etc., etc.
Vous l'avez ressenti comment, Andrea, Aladane?
Bah très bien, ça m'a pas posé de problème. C'est même complètement bien amené, étant donné qu'elle justement, donc elle enlève toutes ses couches, mais toutes ses couches de vêtements de femmes à travers le monde et à travers des époques. Et donc à la fin, bah, il reste quoi? Un corps, et d'autant plus que le mannequin est nu aussi. Donc, et elle déshabille même le mannequin, enfin elle le démembre plutôt. Donc ça me paraissait logique.
Il y a une image comme en miroir, mais c'est vrai que c'est la question de la nudité, c'est une question qui revient souvent sur le théâtre contemporain, parce que c'est presque une case à cocher dans tous les spectacles, et ça peut avoir quelque chose de tout à fait agaçant. Donc c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu là-dessus, pour savoir ce que vous, et comme interprète, et comme potentiellement aussi metteur en scène, comment vous envisagez cette question de la nudité. May ?
Moi, ça ne me pose pas trop de soucis. Ça dépend comment c'est amené, justement. Et je trouve que là, dans ce spectacle, c'était très bien amené. Et même la première nudité, à la fin du striptease, ils nous disent que c'est un striptease. Mais ça m'a quand même étonné qu'elle a fini nue. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que... Et je trouvais ça... C'est amené d'une manière très... c'est pas imposé à nous, je ne sais pas. Ça fait partie de l'histoire aussi, qui nous raconte au final. Et je trouvais beau la nudité à la fin aussi, parce que ça fermait la boucle du spectacle.
Aurélien ?
Oui, je suis assez d'accord que la nudité de Vima Laponce est très bien amenée, mais c'est pas, je me suis dit que c'était pas si évident que ça, parce qu'en fait, pendant le striptease, elle utilise quand même vachement l'humour. Du coup, on n'est quand même pas du tout dans un rapport à vouloir la voir nue et à se dire elle va se mettre complètement nue, surtout que ça dure très longtemps, parce qu'en fait, elle a pas mal de couches, de culottes, de string, et sur la poitrine également. Donc on n'est pas certain qu'elle va finir nue, et on est vachement dans un truc ludique et drôle, et finalement elle finit nue sans vraiment qu'on s'en rende compte, quoi. Il y a un truc où on se dit ça passe très bien, quoi. Mais il y a un moment où je me suis dit jusqu'où ça va aller, est-ce qu'elle va se mettre nue, et est-ce que quand elle sera nue ce sera pas bizarre, parce que jusque là ça avait été très drôle, et une fois nue ça aurait... Est-ce qu'il fallait rire? Est-ce qu'il fallait pas rire? Et en fait, elle se met nue, c'est pas drôle, ça passe à la suite, et c'est plutôt très bien amené, ouais.
Camille, pour finir ce tour de table.
Ça m'a pas dérangée, ça m'a pas non plus, ça m'a pas fait grand chose, mais pas dans le mauvais sens forcément. C'est-à-dire que je m'y attendais, je le voyais venir. En plus, comme j'avais vu Not on the Circus, je le voyais venir. Mais après, je trouvais que l'humour justement était presque pas nécessaire. On le voyait et on l'avait accepté dès le départ qu'elle arrivait avec cette énorme couche de vêtements. C'était ok, donc du coup je me suis dit c'est pas la peine presque. On est avec elle, donc c'est presque trop long, je trouve.
Alors là, justement, la question de la durée, la question de la répétition, c'est aussi des questions qui vont revenir dans cette première partie de cette émission de Radio Conservatoire sur la question de la forme, et peut-être la question du genre aussi. On en parlait tout à l'heure en introduction. Andréa Lazanne, vous aviez énoncé un certain nombre de genres possibles pour qualifier grande, mais dans le sens où ce serait presque une addition de ces différents genres. Ce serait quoi, grande, pour vous ?
Théâtre, cirque, musique, danse.
Performance ?
Performance, j'ai oublié.
Ah oui, il me semble. Hein.
Performance, théâtre, cirque, musique, danse.
Vous êtes d'accord autour de cette table, Hugo ?
Oui. Bah, y a beaucoup de choses, quoi. C'est un festival de genre, mais ils sont tous là, quoi. Il y a tout, il y a de tout. Il y a de l'esthétique, il y a oui, du aussi. Théâtre, du jeu, du cirque, de la musique. Il y a tout, en fait.
Le travail vous a impressionné, la masse de travail vous a impressionné?
La masse de travail, oui. Bah, c'est réglé comme une horloge, c'est hyper précis. Malgré que ce soit touffu, on voit beaucoup de choses et justement, on nous permet de voir ce qu'on veut, en fait. Enfin, moi, je trouve, en tout cas.
À propos de travail, et ce qui concerne particulièrement peut-être les comédiennes et les comédiens que vous êtes, il y a deux ou trois reprises des séquences dans lesquelles Vima Lapons raconte une histoire en changeant d'humeur toutes les 3 ou 5 secondes. Alors, c'est un exercice de style, donc c'est de la forme. Il me semble que c'est aussi du fond sur la relativité des événements dans le cours de nos vies. Alors, Jérémy Lewin, qui n'est pas là pour cet enregistrement, mais qui était là pour la préparation de l'émission, disait qu'à ces moments-là, il avait, lui, envie d'être Vima Lapons. Est-ce que vous avez ressenti une chose similaire, Andréa, vous opinez ?
J'opine. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre, mais j'ai eu la même sensation d'avoir envie d'être elle, parce que j'avais l'impression qu'elle savait tout faire. Et d'un coup, ben... Moi aussi, je veux savoir tout faire.
C'est motivant.
C'est motivant. C'est motivant de savoir tout faire. Non, mais puis elle est virtuose. Ce moment, il est complètement virtuose, je trouve. Et comme j'aime énormément ce genre de pratique, de changement d'état, de changement de personnage à la seconde, bah, le voir bien fait comme ça, ça donne envie.
Aurélien, tous ces moments-là particulièrement ?
Oui, ce moment est un vrai... une vraie leçon de théâtre et en même temps une leçon sur la société. Donc c'est ça qui est assez drôle et assez bien amené. Après, c'est vrai qu'elle sait faire tellement de choses, Vima Lapons, qu'à un moment, on se dit ça peut être infini dans le spectacle. Jusqu'où ça va aller et est-ce qu'elle est obligée de montrer tout ce qu'elle sait faire ? C'est vrai qu'on se pose un peu la question à un moment. Quoi.
Bah, c'est un peu une question que vous souleviez, Camille, dans la préparation. C'est... À quel moment est-ce que c'est peut-être trop de la performance, de la démonstration et finalement, qu'est-ce que ça... Et peut-être pas assez dans le partage ?
Oui, je trouvais que c'est très impressionnant et il y a un endroit où on se dit c'est virtuose, c'est magique, on a envie d'être avec elle. Et après, il y a un endroit où on se dit mais où est la faille qui me permettra de rentrer et d'être touchée par ce que tu nous racontes ? C'est-à-dire qu'on est presque gavé de la performance. Et bah, après, je suis un peu peut-être exigeante parce que j'ai adoré le premier spectacle que j'avais vu avec Tiriaka, Vimala et les deux autres dont je ne me souviens plus du nom. Excusez-moi. Et du coup, ce moment-là existait et c'était une fois et c'était magnifique parce qu'elle s'épuisait et allait au bout de cette chose-là avec une évolution. Or là, j'avais l'impression qu'elle repartait à zéro tout le temps et que du coup, rien ne transpirait de ça. Et donc, on était bluffés, mais que bluffés. Donc performance, je suis hyper d'accord avec toi, Andrea, pour qualifier le spectacle, par exemple.
Mais sur la question de la durée, de la répétition, de l'épuisement, mais vous en parliez aussi en préparant l'émission, c'est le mot de lassitude qui est souvent revenu quand on a préparé ensemble. Comment vous l'avez vécu, vous ?
Ben moi, il y avait une lassitude, parce qu'il y a beaucoup de... Ça fonctionne par revue, par épisode, et dans ces épisodes, il y a une répétition de choses, de tours avec... Elle met des choses sur sa tête, où il descend son grand toboggan, ils le font, ils le répètent. Il y a beaucoup de gestes qui se répètent, en fait, beaucoup d'actions qui se répètent, et il y a une lassitude qui vient en revoyant. Au début, on a une tension, et après, à des moments, il y a une lassitude qui vient, effectivement. Mais... Pour moi, cette lassitude s'ancrait dans une histoire, en fait, dans la lassitude de la répétition, dans ce spectacle. En fait, au bout d'un moment, cette lassitude devient quelque chose d'autre. On découvre un autre plaisir dans l'action qu'ils font. Et à chaque fois, ça change un petit peu. C'est un autre objet qu'ils mettent sur la tête ou d'autres paroles qu'ils disent pendant qu'ils le font. Et pour moi, ce moment de lassitude est très important, en fait, pour être avec eux. Pour entrer dans leur
monde,
dans le spectacle, quoi.
Et dans le récit, parce que c'est Hugo qui en parlait notamment en préparant cette émission, c'est-à-dire que là, on voit que la forme et le fond ont partie liée. C'est aussi la question de la monotonie de la vie, la répétition des mêmes gestes, mais qui sont pas tout à fait les mêmes parce qu'on change aussi. Et c'est quand même l'histoire de cet homme et de cette femme. C'est comme ça que vous l'avez perçu, reçu au cours du spectacle.
Oui, moi j'ai. Enfin, c'est une forme quand même relativement fragmentée, avec des revues.
Des numéros.
Précises, des numéros, etc. Ça, on revoit dans le cirque, revoir, etc. Enfin, bon. Y a cette forme très, très fragmentée, mais cette forme fragmentée, justement, ne suppose pas que le spectateur ne peut pas s'imaginer une histoire avec ça, en fait. Et ça, moi, j'ai trouvé que là, il donnait la place au spectateur, dans le sens où on ne nous donnait pas un truc tout cru dans la bouche. On pouvait voir, moi, j'ai vu l'histoire d'un couple, mais pas forcément d'un couple, mais de peut-être plusieurs couples, à des moments différents de leur vie, qui vivent soit des malheurs, soit des joies complètement différentes, à n'importe quel moment. Et j'ai trouvé ça passionnant, en fait, de pouvoir en fait revisiter à la fois des vieux numéros de clown comme ça, comme le toboggan ou le lancer de couteau, et à la fois revisiter des moments de vie qu'on a peut-être eu ou qu'on aura peut-être ou qu'on imagine, on imagine avoir plus tard, j'en sais rien.
La cuisine, la vaisselle.
En fait, c'est un peu comme. Enfin, ils font rentrer le cirque un peu dans le quotidien, quoi, dans le concret, avec cette vaisselle, tous ces trucs-là, quoi. Se pendre à la boîte aux lettres d'une porte en criant. Enfin, moi, je trouvais ça passionnant.
Aurélien, fond et forme se rejoignent pour vous aussi, là ? La question de la répétition, de lassitude.
Oui, tout à fait, parce que ils captent des moments de la vie quotidienne. Donc il y a de la répétition dans la vie quotidienne. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé, en fait, cette répétition. Et j'ajouterais, du coup, peut-être un genre dont on n'a pas parlé. J'ai trouvé que c'était monté comme des rushs de films de cinéma, au cinéma. De reprendre une même scène. Il y a différents plans au cinéma, donc on fait jamais qu'un plan, on en fait 9, 12, et là c'était reprendre ça, et il y a juste différents plans. J'ai trouvé que ouais, c'était monté comme du cinéma et que ça en rentrait dans le genre. J'ai trouvé que justement le cirque entrait plus dans le démontage, dans les moments où les techniciens arrivent sur le plateau et d'ailleurs ils en font aussi une performance parce qu'il y a un timing.
Il y a un décompte à chaque fois, ouais. Avant le prochain numéro.
Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve qu'd'ailleurs ils jouent très bien là-dessus parce qu'il ne reste que quelques secondes et par exemple Vima Lapence va prendre le temps de boire une bouteille d'eau avant de se mettre en place et nous on se dit est-ce qu'elle va réussir à se mettre en place avant la fin du décompte. Donc ils font de ces moments de démontage une performance. Mais pour moi les codes de cirque ils sont plus dans le démontage et dans les numéros d'acrobatie, les lancers de couteau, tout ça, que dans cette répétition de numéros. À la limite, je dirais que ça fait un peu musical, les numéros comme ça, mais ouais, j'ai vraiment vu un montage, puis même comme il y a les effets sonores, l'ambiance sonore est plus tournée cinéma, donc ça m'a fait penser à ce genre en plus.
Pour autant, Andrea, vous avez parlé de théâtre aussi. Vous avez vu du théâtre dans ce spectacle, dans Grande.
Oui, complètement. Bah, c'est sûr, c'est pas spectaculaire comme le cirque au sens premier, mais c'est spectaculaire pour du théâtre parce qu'on voit pas ça tous les jours, des gens qui font du toboggan sur scène, enfin qui se jettent dans le vide plutôt, ou qui portent des choses sur leur tête, enfin bref, etc. Mais moi, sur le fond, j'ai vraiment bien saisi cette histoire du couple, enfin de la dissolution du couple ou des couples ou des émotions, des chagrins, des pertes, des désirs. Je l'ai vraiment perçu donc à travers ces fragments, mais ça m'a pas du tout dérangé que ça se répète en boucle. Au contraire, parce que bah, c'est ça la vie. On répète tout le temps les mêmes choses. L'amour, on répète tout le temps les mêmes choses. Le théâtre, on répète tout le temps. Le sport, on répète tout le temps. Et j'ai l'impression que la musique, on répète tout le temps. Et donc dans leur vue qu'ils font tout, eh ben c'est presque logique qu'il y ait cette forme de répétition, puisque c'est ancré dans toute leur pratique, la répétition, et dans la vie aussi, donc dans ce qu'ils veulent raconter, la vie. Hein ?
Mais on en revient quand même à la question de la place du spectateur, et je reviens aussi vers vous, Camille, sur le côté peut-être un peu excluant que vous avez pu ressentir, vous, et d'un, je vous cite, un fourre-tout qui peut brider l'imagination du spectateur. Je vous cite carrément, ils se font leur kiff entre eux. Il y a cette dimension-là qui peut j'ai entendu hein, des spectateurs, j'ai parlé avec certains autres spectateurs de Grande, ce sont effectivement des réactions que l'on peut avoir. Donc c'est pour vous, futur, déjà interprète, metteur en scène, ce curseur-là entre la démonstration, le plaisir sur le plateau et le fait que ce plaisir puisse être excluant. Comment vous placez les choses, le curseur, comment vous l'avez ressenti là ?
Bah justement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Andrea, sur cette boucle qui est la vie, on a compris justement. Et est-ce qu'on n'a pas envie de voir un peu déjà d'espoir peut-être pour nous faire sortir de ce qu'on voit tous dans la vie tout le temps ? Et donc, bifurquer sur la question du spectateur, c'est très chargé au niveau du décor, au niveau de la performance, de la durée, c'est trop long, je trouve. Et on n'a pas de place pour se raconter une histoire. Après, moi, cette histoire de couple, je ne l'ai chopée que très tard. Et un moment qui m'a bouleversée dans le spectacle, c'est cette danse presque art martial à la fin qu'elle fait. Déjà, ça respire parce que ça parle moins, ça parle pas du tout même. Et on la voit, en fait, vivre. Et on voit son regard s'ouvrir. Enfin, on voit tout d'un coup, la garde tombe. Et pour même revenir sur la question de la nudité avec Tiriaka, c'est pas du tout traité de la même manière pour lui à la fin, parce que c'est presque terrible quand lui, il finit à poil, en fait. Alors qu'elle, on l'accepte dès le départ. Et lui, quand il arrive à poil, je trouve ça beaucoup plus bouleversant. Et on voit... Ouais, on voit pour le coup l'homme nu et on voit la garde tomber encore une fois. Et là, en tant que spectateur, on peut rentrer avec eux et se raconter toutes ces choses-là du couple et de cette boucle. Et on a envie d'y mettre autre chose.
Mais pour vous, il n'y a pas eu assez de points d'entrée dans le spectacle.
Ouais, c'est un peu comme la carte. C'est très beau, c'est hyper chargé. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait de cette carte ? Il y a plein de bouffe.
Aurélien ?
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on n'ait pas de place justement pour réfléchir. Je crois que de ce que j'ai compris de ce spectacle qui s'appelle Grande tirée, et où ils disent que le spectateur a juste à continuer, c'est que le spectateur doit trouver la continuité de ça parce qu'il peut être infini. Du coup, il donne certaines images, il donne des codes, il donne des métaphores. Par exemple, quand elle a la machine à laver sur la tête pour dire qu'elle est lessivée. Là, on nous explique...
C'est un peu gros. Enfin...
Oui, mais là, du coup, on nous explique une image.
Ouais. Mais justement, il nous explique. C'est ça qui m'a dérangée, moi.
Mais moi, à partir de cette image, je me suis raconté plein d'autres. Je suis allée plus loin. Enfin, il y a plein de choses, moi, qui me sont apparues. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, la machine à laver représentait vraiment une femme enceinte. Et l'homme qui lançait ses t-shirts à l'intérieur et tout ça. Mais je me suis dit, en fait, on peut aller vachement plus loin dans la métaphore et pousser toujours plus les propositions qu'ils font. Et j'ai cru comprendre que ça servait un peu à ça, le spectacle, quoi. À toujours continuer les propositions qui peuvent être infinie, eux, ils nous donnent finalement une assez courte partie.
Bah alors ouais, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit encore plus poussé. Parce que j'ai trouvé que par rapport à cette machine à laver, par exemple, c'est l'entre-deux de... Premièrement, on a compris l'image. Ensuite, ok, j'ai compris. Et là, ça s'arrête. Du coup, il n'y a pas l'épuisement qui permet que soit on soit touché, soit on puisse rire. Moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Mais
Bah, je trouve que pour moi, pour rentrer, la forme me permettait de rentrer dedans. Parce que y a, ce que j'ai, une chose que moi j'ai vraiment beaucoup appréciée dans le spectacle, c'est eux qui éteignaient les lumières, c'est eux qui, on les voyait à leur niveau zéro, au niveau ils faisaient des choses sur scène, mais par ils faisaient la technique, ils faisaient la mise en avec nous. Et pour moi ça c'était un point d'entrée hyper important. Et j'ai pas vu l'histoire venir, l'histoire de ce couple venait, j'ai pas vu comment c'est devenu une histoire, c'était en forme de revue et ça me permet. Je trouvais qu'on les voyait épuisés, en train de boire l'eau avant, pendant le décompte. Et pour moi, ça, c'était un point d'entrée, d'une manière personnelle. Mmh. Mais pour moi, je trouve qu'on ne le voit pas très souvent, en fait, ce moment-là et cet état-là. Et pour moi, ça le rendait très accessible. Voilà.
Et Aurélien ?
Enfin, moi, je trouve que ça parle quand même beaucoup plus que juste un couple. Enfin,
ça parle de l'amour, de la vie, de beaucoup de choses.
Ouais, ça parle de... Moi, je me suis plus parlé de dualité, en fait. Il y avait play-pause, je crois. Il y avait...
Vrai-faux.
Vrai-faux, voilà. Il y a une vraie dualité. Ça parle vachement de la société, mais ça s'est vraiment posé comme tel, quoi, avec, du coup, Vim à la ponce qui nous fait... c'est son petit truc où on a juste l'impression qu'on est aliéné. Et elle dit cette phrase très drôle juste après. « Faut juste savoir qu'on est comme ça, et après, ça va. » à essayer d'être humain. Ça nous montre vachement ça. Et je trouve que ça parle vachement de la condition de la femme. Enfin, j'ai eu l'impression que ça en parlait vachement. Bah, déjà avec le striptease, où du coup, on a d'un coup plein de femmes différentes, mais plein de pays, plein de métiers, plein de religions. Du coup, on a un peu ce truc de la machine à laver, quand elle fait l'art martial, elle prend l'argent de l'homme et elle le balance. Elle fait un peu la...
Le bébé aussi.
De quoi ?
Elle a un bébé aussi dans cette
danse. Le bébé, la femme qui dépense l'argent.
Le champagne.
Et j'ai trouvé ça assez aussi légèrement politique quand même. Il lance quand même des couteaux sur la tête de Marine Le Pen, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que ouais, ça racontait vachement plus de choses que juste une histoire de couple qui en soi. Moi, ma peur,
à travers cette histoire d'amour, il nous parlait de beaucoup plus de choses que ce qui n'était juste là sur le plateau. En fait, il parlait par l'intermédiaire de l'imagination du spectateur. On arrivait à voir beaucoup plus de choses que ce qui nous offrait juste comme ça. En fait, et ça, je trouve ça assez, c'est très très bien joué, quoi.
Il faudrait faire le test de Lewin. Vous connaissez le test de Lewin, inventé pour Radio Conservatoire. C'est est-ce que vous amèneriez vos parents voir le spectacle Grande. C'est Jérémy Lewin qui a déposé ce test.
Le grand Lewin.
Alors, vos parents ou vos amis, vos cousins, comment est-ce que vous pourriez parler de ce spectacle ? Est-ce que vous allez ou vous avez déjà conseillé à des gens que vous aimez, à qui vous voulez du bien, d'aller voir Grande en leur disant quoi, Camille ?
Que c'est très très beau performativement parlant et que je sais pas, je suis pas très objective peut-être parce que je suis déçue en fait du spectacle que j'avais vu avant qui m'avait bouleversée, mais oui, je pense que j'emmènerai ma mère le voir et je pense que ça mais je pense qu'elle dirait mais alors c'était quoi l'histoire? Et du coup qu'est-ce que ça leur fait à eux, aux acteurs? Et Vimala, par exemple, il y avait des moments où elle avançait vers le micro, ce qu'elle faisait très souvent, et son avancée était magnifique. Elle avait un truc, je ne sais même pas si c'était voulu, puisque je sais qu'ils ont travaillé sans œil extérieur, avait un truc bouleversant, elle était perdue à ce moment-là. Et ça manquait tout le long, je trouve, pour le fil et pour que tout ce qu'ils nous racontent, les meuves. Je me suis un peu embrouillée.
Non, c'est bien, on a suivi. Hugo.
Oui, moi je pense que, enfin, tout à fait, je pense que j'amènerai ma mère voir ce spectacle, en fait. Parce que je pense que par le fait qu'il parle d'amour ou de cette chose-là, je trouve que c'est une bonne entrée pour que tout le monde puisse y parvenir. Donc du coup, à fond.
Bon. Andrea ?
Bah, j'ai déjà conseillé d'aller au 104 à la rentrée, à plusieurs copains et à mes parents, je vais leur dire aussi, je pense. Et si ce n'est déjà fait, je ne sais plus. Mais je crois que j'ai dit, si vous voulez voir un truc qui change un peu du classique ou du théâtre au sens propre, du texte.
Voilà. Mais ?
Ah oui, ouais, moi je ramènerai bien mes parents, je leur conseillerai bien. Mais peut-être justement parce que je pense qu'il n'y a pas d'histoire fixe. Et du coup, j'aurais pas... Ou même des amis à moi, des fois, dans l'idée de chercher une histoire, ils se disent, j'ai pas compris. Et là, je me dis, on comprend ce qu'on a à comprendre nous-mêmes. C'est que nous qui créons l'histoire dans ce spectacle. Et justement, je ramènerai bien mes parents et beaucoup d'amis sans trop m'inquiéter qu'ils se sentent pas à l'aise, en fait. Parce que je trouve que des fois, c'est le cas. Mais pas très souvent, mais des gens peuvent se sentir mal à l'aise au théâtre, des fois. Voilà. Et je trouve que ce spectacle est très accessible pour tout le monde, en fait.
Plein de niveaux. Ouais. Je suis d'accord. Aurélien, pour finir ce tour de table sur « Emmèneriez-vous ?»
Oui, je les emmènerais, mais je pense qu'ils regarderaient ça comme du cirque, en fait, je pense. Et pour leur expliquer un peu le genre, je leur dirais une phrase que j'ai piquée d'une interview de Vimala Ponce qui définit un peu son genre, qui dit « Le cirque est pour nous comme un langage dans une poésie faite du montage de fragments situés aux antipodes les uns des autres. » Et je trouve ce spectacle, c'est un peu ça.
Vous répétez ?
Ouais. « Le cirque est pour nous comme un langage dans une poésie faite du montage de fragments situés aux antipodes les uns des autres. »
Alors, ce qui m'intéresse toujours dans ces émissions de Radio Conservatoire sont les effets produits sur vous par les spectacles que vous voyez, vous, élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Comment ça vous nourrit ? Qu'est-ce que ça peut changer dans votre pratique, dans vos envies aussi ? On va faire aussi un tour de table, mais bien sûr, croiser les paroles et réagir, si vous le souhaitez, aux propos des uns et des autres. Andrea, je recommence avec vous. Comment ça vous nourrit ? De quoi ça vous donne envie ?
Ben, comme je disais tout à l'heure, ça me donne envie de savoir tout faire.
C'est bien,
mais,
déjà.
en fait, j'aime beaucoup quand tout est fait en direct, au plateau, quand ils sont un peu maîtres du temps, maîtres de la musique. Et du coup, ça donne envie d'aller un petit peu à chercher là-dedans, chercher comment, avec beaucoup de choses et rien en même temps, on peut faire tout nous-mêmes. Je ne sais pas comment expliquer. Mais ça m'a donné envie, en fait, quand je l'ai vu, ça m'a donné vraiment espoir en une autonomie un peu, presque, de recherche et de travail. Et sinon, si en tant qu'acteur, comment ça m'a nourri? Il y a je trouve que Camille l'a dit un peu, mais leur tenue de corps, leur précision, ça montre à quel point c'est important. Et dans ce genre de travail, on le voit clairement, puisqu'il n'y a pas de... Vu que c'est une performance, on ne peut que regarder leur corps et comment ils sont. Et là, pour le coup, ça m'a aussi donné envie d'être beaucoup plus précise sur un plateau.
Oui, vous disiez en préparant cette émission, ouais, vous aimeriez marcher comme Vimala Ponce.
Oui. Alors, pas tout le temps, hein,
non.
Selon les rôles. Hein.
Mais dans cette précision.
Mais dans, hein,
dans cette forme de présence-là.
Ouais. En tout cas, la voir. Mm. Savoir qu'elle est possible.
Mais Hilaire, comment ça vous a nourri, ce spectacle ?
Ouais, la rigueur, comment c'est chronométré à la millimètre. Peut-être que ça ne l'est pas, mais je pense que ça l'est. C'est incroyable, la précision de tout ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose à prendre, à retenir. Il faut cette précision. Ils nous montrent tout. Ils nous montrent même comment ils arrivent, oui, à faire chaque action, et ils la répètent. tout est visible pour nous, et ça, c'est très fort. Et on peut montrer au public tout, presque l'étape d'arriver à comment on fait ce geste, comment tout ce... La danse, notamment de la fin, c'est par petits bouts. On a chaque geste, le geste s'élargit, c'est comme un zoom sur chaque chose qu'ils font.
Et du coup, ça provoque une autre forme d'attention.
Oui, exactement.
Aussi.
Ouais.
Le but, ce serait d'arriver à provoquer ce type d'attention du spectateur pour
exactement.
Vous.
Ouais. Cette attention au infini, et que c'est ce petit geste, comment on l'élargit en fait, comment on étire quelque chose qui est infini en fait, tout petit. Voilà.
Vous disiez en préparant, ça donne de l'espoir et ça ouvre des possibilités.
Ah moi, c'est énormément.
Ça vous a donné beaucoup d'énergie.
Ouais. Oui. Ah oui, oui. Grande. Parce que c'est
pas,
autre chose.
Je crois pas que vous en manquiez avant, mais
mais. Mais c'est autre chose, en
fait. Ça recharge.
Voilà, ouais. Exactement, c'est autre chose. J'ai pas vu beaucoup de spectacles comme Grande, et du coup, ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que c'est autre chose, c'est une autre manière de faire les choses, de faire des revues, on arrête, la musique continue, ils font les choses sur scène, et puis okay. On respire avec eux, en fait. Et, ouais, moi, ça me donne la foi, voilà.
Bon, Hugo ?
Comme moi, je suis pareil.
Alors moi, le fait de voir tous ces genres... s'allier au spectacle, ça, pour moi, ça donne une nouvelle dimension aussi à l'approche qu'on devrait avoir du comédien, en fait. Parce que ça nous permet de se dire, OK, il faut qu'on cherche partout, en fait. Art plastique, cirque, danse, chant, tout, en fait, tout et tout. On peut tout ramener, en fait. Vraiment, on peut tout ramener. Enfin, c'est pas non plus nouveau, mais c'est vraiment, je pense que ce spectacle, ils ont mis vraiment, je pense, la totalité de ce qu'ils pouvaient faire sur le plateau, quoi. Et du coup, ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie d'apprendre à tout faire, en fait.
Et ça permet de parler aussi autrement de sujets qui concernent.
Ah bah oui, complètement, parce que cet effet qui ramène le cirque, du coup, au quotidien, qui le rend plus concret, c'est pour moi, c'est... Enfin, moi, j'adore ce genre de forme où on parle de politique à travers le quotidien. Enfin, genre, et parce que ça me touche beaucoup, et parce que ça peut toucher énormément de gens, on ne balance pas direct un truc en mode « c'est un spectacle politique, c'est sur la société, vous allez vous faire chier. » Voilà. Enfin, ça, pour moi, ça, c'est ça m'ennuie direct d'entrée, quoi. Alors que là, on peut parler de choses vraiment très importantes avec des moments de vie qui nous touchent, ou des moments, en fait, des instants.
Aurélien ?
Moi, ça m'a donné envie de structurer de manière très précise les coulisses. Parce qu'en fait, là, tout est à vue. Et les changements de costumes qui sont très rapides et les changements de scéno font partie complètement du rythme du spectacle. Et je crois qu'en fait, c'est assez fondamental. Je me suis dit ça pendant le spectacle. C'est qu'en général, quand il y a des coulisses, on est dans un complètement autre rythme dans les coulisses. On est très rapide, c'est toujours un peu le bazar. Et on se sort en fait du spectacle et on re-rentre et je me suis dit, mais en fait, oui, il faudrait structurer les coulisses, que ça fasse partie intégrante du spectacle, quoi. Le changement de costume, le...
Bon, ça voilà, fait un moment qu'on voit ça quand même sur les plateaux de théâtre, hein, des Tégestan à Sivadier, en passant par... Enfin,
oui,
la liste est très très longue.
Mais moi, je voudrais structurer dans
actuels.
Les coulisses.
Tu veux dire des coulisses qu'on ne verrait
pas.
Garder
les coulisses.
Garder les coulisses. Je voudrais pas forcément faire tout à vue. Je voudrais juste structurer la chose.
Mais les penser autrement. Et ça change quoi dans le spectacle, du coup? Ça change quoi
Je crois que pour
que
les acteurs, ça change le parcours.
L'énergie ?
Ça change... l'acteur, il se fixe un parcours de personnage et d'un coup, il le cut pour aller changer de costume très rapidement en se prenant les pieds dans un fil et il revient sur scène. Et je crois que de structurer aussi précisément qu'on l'a vu dans ce spectacle, les coulisses avec, un changement de costume qui fait partie intégrante du spectacle mais qui n'est pas à vue, je le penserais comme ça. Et après, je me suis posé une question de ce que ça pourrait donner au théâtre, c'est la modification de voix en direct. Par exemple, j'ai pensé au spectacle de Pomera qui utilise souvent des adultes pour jouer des enfants et qui utilise des micros, et je me suis dit, tiens, s'ils modifiaient en direct les voix et qu'ils leur donnaient des voix d'enfants réellement. Voilà, je me suis posé la question de comment ça fonctionnerait. Mais j'en sais rien.
faut renvoyer aussi vers les spectacles de Cadio Lagarde Poitrenaud qui joue à ça depuis un certain temps, sur les monologues en tout cas, dans les derniers spectacles, notamment Un Mage en été qui jouait beaucoup là-dessus avec des acousticiens de l'IRCAM extrêmement précis, mais qui jouaient justement de ces changements de voix en direct. Mais pareil, ça commence aussi à se faire, mais ce sont des pistes qui peuvent être riches. En tout cas, voilà, ça nourrit votre réflexion, on l'entend. Pour vous, Camille, Constantin, comment ça a nourri votre pratique et pratique à venir?
Ça a remis au goût du jour la rigueur qui manque.
Ah, ben c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais qui manque parfois chez les comédiens, je trouve. Parce que finalement, dans le théâtre, il y a un peu tout. Il y a la musique de la voix et il y a le rythme du corps et de comment on marche et tout. Et je crois que c'est essentiel, mais je crois que c'est un peu propre à la France, peut-être à Paris, je ne sais pas, d'oublier un peu ça. Et du coup, la pratique de l'acteur peut être un peu plus, comment on peut dire ça délicatement, lésée, plus facile. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on remette nos gammes en fait d'acteur et le sport. Il faut que ce soit la gym de l'acteur. Mmh. Et ça donne envie, comme tu disais, Andrea, d'être précis dans chaque chose et que chaque chose soit millimétrée, mais à tel point que du coup, le spectateur ne voit même plus les ficelles en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que là, c'est ça qui est génial et qui parfois, je trouve, se voit. Et bref, je voulais juste revenir sur pourquoi ça m'a pas touchée.
Bien sûr.
C'est que en fait je crois que rien ne leur échappe et c'est pour ça qu'on est exclus, parce que ils sont parfaits et nous non. Et je crois qu'on, moi je vais au théâtre,
c'est pas votre projection ça plutôt?
Ouais, moi je suis pas d'accord
que
donc
ils sont parfaits,
que eux sont parfaits et pas vous. Ça parle de vous là en fait, ça parle pas
d'eux. Bah bien sûr, mais c'est ce que j'ai, c'est complètement subjectif, mais dans leur performance ils sont parfaits. Et par exemple le soir où j'y étais, Vimala a fait tomber la poutre en bois de sa tête et du coup je me suis encore plus accrochée à elle au lieu de me dire ah merde putain elle m'a déçue quoi. Mais donc ça l'a humanisé en fait. Et donc j'allais dire, moi je vais au théâtre pour voir m'identifier à quelqu'un qui va me faire m'oublier moi. Et donc qui va me faire vivre une émotion qui va taire ma solitude ou ma joie ou peu importe. Et qui va nous faire nous disparaître. Et c'est ça qui a manqué, je trouve. C'est qu'ils étaient parfaits. Et donc je suis ressortie comme je suis rentrée. Mais c'est pas forcément j'ai pas forcément détesté, mais je pense qu'il gagnerait à travailler avec quelqu'un. Enfin, je dis ça de ma toute petite expérience.
Non, mais c'est intéressant aussi. Je vois Andrea qui prend des notes ou qui biffe ou qui a envie de réagir à ce que vient de dire Camille sur la perfection qui annihilerait la possibilité de s'oublier.
Et que c'est du théâtre et pas du cirque. Et c'est pour ça que cette perfection peut déranger.
Non, mais j'entends très bien ce que dit Camille. Je comprends, en fait. Mais c'est vrai que moi, je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas sentie inclue, mais je ne me suis pas sentie non plus exclue. J'étais juste là, en regard, en spectatrice. Donc, je comprends quand tu dis ça, puisque forcément, je vais me retrouver à un endroit, et en même temps, je ne me le suis pas dit. Et oui, mais comme c'est de la performance, il y a tout ce mélange-là. Ouais. Du numéro, de la revue, il salue, c'est parfait. Mais moi, j'étais à fond, moi, j'étais complètement happée. J'avais peur pour eux, j'avais envie qu'ils réussissent, je me disais ils vont se faire mal, ils vont rater, ou alors c'est génial, ils ratent pas, ils sont extra. J'étais un peu dans plusieurs, en tant que spectatrice, un peu dans plein d'émotions différentes.
Alors peut-être la question subsidiaire, c'est effectivement celle qu'évoquait Camille, est-ce que un regard extérieur, selon vous, modifierait le spectacle de quelle façon? Parce que ça le modifierait forcément. En bien, en mal, comment est-ce que vous imagineriez cela, Aurélien? Lève un sourcil un peu circonspect sur cette question.
Non, c'est une, vraiment une...
Il vous aurait demandé de venir, de regarder le spectacle tel que vous l'avez vu. Vous auriez conseillé des changements? Quel changement? Pas de changement?
Ben non, je crois que j'aurais servi à rien parce que... parce que j'ai l'impression que ce spectacle, vu qu'on est un peu dans leur laboratoire, c'est vraiment un échange entre... En fait, le troisième œil, c'est le spectateur. C'est à ce moment-là du... C'est ça qu'ils ont envie de montrer. C'est bon, voilà, nous, on a travaillé jusque-là dans notre coin et maintenant, on vous montre ça. Je pense même que le côté perfection dont Camille parlait serait là pour le coup trop gênant s'il y avait un troisième œil qui leur permettrait de perfectionniser, c'est ça le mot ?
Perfectionner, ça suffit.
Perfectionner, c'est bien.
Perfectionner. On peut faire plus long, si perfectionno-saucissiner.
De perfectionno-saucisser justement le spectacle, non, moi je trouve
ou
ça...
Ou d'enlever la perfection.
Mais au contraire, c'est ça, oui.
Au contraire, oui,
non, c'est
pardon.
C'est ce qu'a dit Andrea.
Mais que je n'ai pas entendu.
D'enlever la perfection, de les humaniser. Enfin,
je crois que c'est ça que
de faire exprès de faire tomber la poutre. Dire.
Par exemple.
Mais il y a déjà beaucoup de choses comme ça. Ils font exprès de casser une assiette.
Oui, mais tu le vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois. Du coup, ok.
Et quand ils disent, tu vas être surpris qu'ils font les confettis et que le. Et qu'après, il y a les. On croit qu'elle va se marier et en fait, elle est dans une tombe.
Ah, c'est magnifique parce que c'est rapide et que t'as pas eu le temps d'y penser.
Ah, là, t'avais pas vu.
Mais ça, c'est sublime, je trouve, ces petites choses-là. Quand elle est comme ça, avec cette espèce de truc sur le front et que. Y a
on a toutes les images.
Attends, je suis à fond là. Non, mais quand elle a les fleurs sur la tête et que tout d'un coup, ça tombe, c'est hyper beau ce truc-là. Et on aurait envie que ça se suspende encore plus. Et après, ça repart. Trop. Enfin, on a envie de voir ce que ça leur fait, putain.
Bon, pour finir, dernier tour de table, peut-être. Vous demandez quelle image ou quelle séquence vous retenez de ce spectacle quand vous y pensez là, à l'instant. T. May. Une image de grande.
Oh, la petite cuisinette qui
kitchenette.
Kitchenette qui nettoie.
C'est un anglicisme, vous ne pouvez pas comprendre.
qui nettoie en boucle et qui revient à un moment, je crois que ça s'arrête et il revient. Et justement, c'est un moment où je me suis presque lassée et j'étais très contente que ça revienne et que je ne m'en lasse plus. Et je trouve que c'est un moment très fort, un rappel à nous-mêmes, à notre vie quotidienne. Très, très fort. Voilà.
Andrea, une image, un moment.
J'en ai deux en même temps. L'arrivée de Vimala avec toutes ses couches de vêtements qui m'a fait beaucoup rire et la danse de la fin qui m'a vraiment beaucoup touchée.
Hugo ?
Moi je pense que ça va être le striptease de Vimala Ponce et quand Siriaka se pend à la porte par le trou de la boîte aux lettres, enfin, je trouve ça très...
Et qu'elle lui dit arrête de t'accrocher.
Ouais, c'est ça.
Aurélien ?
Moi, je crois que c'est quand Siriaka fait du toboggan, mais qu'il y a un tabouret et qu'il tombe juste à côté du tabouret et qu'il s'assoit. J'ai trouvé que c'était très, très beau et tellement précis.
Dernière image, Camille.
La danse, les fleurs sur son front, leur câlin.
C'est le public qui aimerait faire ce câlin.
On a envie d'y être aussi.
Ouais, c'est vrai.
Bon, câlin, c'est donc le mot de la fin.
Câlin.
C'est bien pour terminer une émission et cette émission de Radio Conservatoire. Câlin. Donc merci à vous, Meiler, Andrea Lazan, Aurélien Feng, Hugo Cuchel et Camille Constantin d'avoir été les critiques de cette émission. Et merci bien sûr à Yann Galerne qui assure toujours la technique de ces enregistrements. Merci à Patricia Fèvre, à Aline Jones-Gorlin qui assure le suivi et parfois la prise de vue aussi durant ces émissions. Merci à Claire Landarcueil qui aime la radio. Prochaine date de grande, ce sera 15, 16, 17 juin au Subsistance à Lyon. Et donc la rentrée prochaine, d'autres dates, ça commencera au 104, à nouveau, retour au 104 pour la saison prochaine. Et puis rendez-vous également la saison prochaine pour d'autres émissions de Radio Conservatoire. Merci à toutes et à tous.
Merci.
Merci. Merci.